Amis de Radio Occitanie et de la poésie, les poètes.
Une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul.
Nous avons la joie d'avoir dans nos studios de la rue d'Assali, ce jour, Casimir Prat. Casimir bonjour. Prat, bonjour. Merci d'être venu nous parler de ton dernier livre. Si tu le permets, je voudrais simplement signaler que les éditions et la revue Encre Vive continue à paraître, que la disparition de Michel Cozem, qui est décédé en juin 1923, Michel Cozem qui était né en 1939, qui a été le fondateur de la revue de ses éditions en 1960, les éditions continuent, elles ont été reprises par un comité de rédaction où il y a Annie Briet, Éric Chassefière, Jean-Louis Clarac, Chantal Danjou, Gilles Lade, Claire Légard, Cédric Lepinvin, Jacqueline Saint-Jean et moi-même. Voilà, donc vous pouvez... Les deux premiers numéros sont consacrés, bien entendu, à Michel Cozem, une vie consacrée à la poésie. Je pense qu'on a mal parlé de ce travail extravagant, extraordinaire, qui a été celui de Michel Cozem de 1960 à 2023. Donc ce numéro, une vie consacrée à la poésie, qui est le 529e numéro d'Encre Vive, hein, au moment où Décharge, par exemple, disparaît, Encre Vive, lui, continue avec... 529e numéro et le 530e numéro avec une préface d'Annie Briet est consacré à Michel Cozem, aussi l'heure de la tourterelle. Alors je venais simplement vous signaler ceci, donc la continuité des éditions et de la revue Encre Vive qui a simplement changé son format. C'est un format qui est la moitié donc de la 4, un format disons plus dans les normes actuelles. L'abonnement vous coûtera 40 euros pour 12 volumes et vous devez vous abonner en écrivant à Éric Chassefière, Chassefière C-H-A-2-S-E-F-I accent grave E-R-E 232 avenue du Maréchal Juin 34 110 à Frontignan ou bien par mail à Encre en minuscule encre point vive tout ça en minuscule 34 hein, sans espace encre point vive 34 @gmail.com. voilà, toutes ces indications seront sur notre site de cette émission qui s'appelle les poètes tout attaché sans accent point site. Vous trouverez donc les modalités d'abonnement à Encre Vive. Voilà. Merci, Casimir, pour avoir donc permis ce signalement. Mais je crois qu'il fallait le faire parce que vraiment, c'est terrible de voir des revues disparaître. Ouais. Et quand après donc de 1960, j'étais moi présent à 12 ans, j'étais venu moi à l'AG voir Michel Cozem, hein, je me souviens de Montauban, j'avais pris le 13, qui était déjà une aventure pour moi, pour aller le voir, et je crois que je n'ai jamais manqué à la fidélité de cet homme qui était un homme vraiment hors du commun. Voilà. Alors, Casimir Prat. Casimir Prat, d'abord, je te présentais très... Tu es un familier de l'émission, les poètes, et tu es un familier... Des poètes de Toulouse et je dirais même des familiers de la poésie nationale maintenant, Casimir Prat, qui a fait paraître aux éditions Gallimard déjà en 2005 Sait-on jamais, donc les poèmes qui rassemblaient donc la création de poèmes de 1995 à 2004, c'était dans cette collection L'Arpenteur. Il avait commencé avec la revue Multiple, Casimir Prat, L'horreur ou la merveille, je m'en souviens très bien, avec ses avant-propos de Francis Ponge, qui avait remarqué cette écriture déjà, on était en 1983, C'est l'année où moi, je démarrais avec Claude cette émission ici. Alors, en venant d'une autre radio ailleurs, nous avons posé notre valise ici et nous y sommes restés. Eh bien, toi, en 1983, tu publies L'horreur ou la merveille et depuis, bien entendu, tu n'as cessé de publier des recueils de poésie, La lampe et le ravin au Des Bleus de Louis Dubost l'année suivante, Elles habitent le soir, là, qui a eu le prix Antonin Artaud en 1989, magnifique recueil où tu parles, tiens, là, nous allons parler maintenant de dames qui ont marqué l'histoire de la poésie, là, tu parles de tes sœurs, Elles habitent le soir, hein. Aujourd'hui encore, chez Rougerie, au moment de partir, l'élection de l'arbre du regretté Jean Lemauve, le figuier pressé de l'horizon, toujours chez Rougerie. Rougerie qui a continué aussi, même de belles continuités, ouais, aussi.
Une belle aventure. Ouais,
voilà, belle aventure qui continue. S'éloigner de la flamme, l'arrière-pays, tout est cendre, le Des Bleus. Alors là, tu as déjà eu, en 1989, le prix Antonin Artaud, et en 1995, tu as le prix Max-Paul Fouché. Voilà. Prix Max-Paul Fouché, qui est un prix national, hein, où siégeait dans le jury national, siégeait notre ami Michel Baglin. Hein. Il y avait deux jurys, il y en avait un qui se réunissait déjà à Tarbes, qui faisait la présélection. Et c'était là où était le plus gros travail. Avec Guy Rouquet, voilà. Et moi, je faisais partie de la première sélection. Et ensuite, il y avait le jury international qui se réunissait, lui, dans un restaurant à Paris et qui attribuait le prix en fonction de la sélection qui lui avait été soumise. Voilà, vers la nuit, l'arrière-pays, de temps en temps, chez Rougerie, Elles habitent le soir. Donc là, c'est une édition qui a été reprise en gascon. Hein, gascon.
Gascon, voilà. Donc, et allemand.
Voilà, gascon et allemand. Alors, le gascon, en plus, c'est dans la langue occitane, c'est une des langues les plus, enfin, les moins parlées, en définitive. C'est là où il y a le moins de véritables lecteurs ou locuteurs. Donc, le gascon, c'était celle de... qui a été mainteneur de l'Académie également.
Ah oui.
Edouard. On parle même de lui pour le prix Nobel de littérature. L'enterrement à Sabre.
Manciette.
Bernard Manciette, voilà. Excusez-moi. Ouais. C'était la langue de Manciette, donc le gascon. Et puis, Tout est cendre, également en espagnol, aux éditions Erato, et Une ferveur brûlée. Alors là, c'est d'anthologie sur Jean Malrieux, que tu avais dirigé à l'arrière-pays. C'était en 1995. Voilà, Jean Malrieux, qui est un peu oublié, qui a été un peu oublié de nos éditeurs nationaux.
Ouais. Hein.
Alors, tu arrives maintenant avec ton dernier livre, qui a pour titre « Cours Antigone, cours », point d'exclamation, qui est publié aux éditions Le Taillis-Près. Ce sont des éditions qui sont en Belgique, dirigées par Yves Namur, lequel Yves Namur est, comme toi, membre de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Voilà, ce qu'il ne faut pas manquer de dire. Alors, dans ce livre, parce que je ne crois pas qu'on puisse l'appeler autrement, c'est pas un recueil, c'est un vrai livre.
Yves Namur l'a
qualifié,
l'a logé dans sa collection. C'est à l'intérieur la collection Les Inclassables.
Ah oui.
Justement, parce que ce texte est un texte à la fois limitrophe de, donc essentiellement de la poésie, mais aussi du théâtre,
oui,
et en particulier. Et c'est un hybride en quelque sorte, puisqu'il y a, bon, parfois j'ai noté ce qu'on appelle des didascalies, c'est-à-dire des indications scénographiques,
oui.
Puisque c'est une personne qui monologue en quelque sorte tout au long du texte, et qui s'adresse à un interlocuteur plus ou moins identifié, qui à la fin rédige une note que j'ai appelée la note du traducteur, puisque celle qui parle est une poétesse, et même plusieurs poétesses, et en même temps est Antigone. Antigone qui sert en quelque sorte de support à la fois à une évocation plus ou moins appuyée de ces poétesses qui ont connu, et je vais les citer c'est assez important quand même.
Alors,
il y a donc
Emily Dickinson, la première.
Sylvia Plath, Emily Dickinson, donc, qui est poétesse américaine du 19e.
Oui.
Sylvia Plath, américaine puis anglaise, puisqu'elle a suivi son mari anglais en Angleterre du 20e siècle. Alejandra Pizarnik, qui est argentine du 20e. Ingeborg Bachmann, allemande du 20e. Et pour enveloppant toutes celles-ci, en quelque sorte, sauf Emily Dickinson, toutes ces poétesses sont aussi plus ou moins revendiquées et identifiées à la grande figure de la littérature américaine et poétesse aussi, Virginia Woolf. Pour Emily Dickinson, qui est donc antérieure, qui est un cas absolument sans aucune sans aucune, comment dire, il n'y a pas de cas aussi limite que Emily Dickinson. C'est une énigme, c'est une merveille, c'est quelque chose d'extraordinaire et en même temps d'inexplicable. Et elle-même n'a donné strictement aucune indication. C'est pour moi, c'est même Jorge Luis Borges,
qui est donc poète
et nouvelliste argentin gigantesque, avait dit que pour lui, Emily Dickinson, c'était l'essence même de la poésie. Et il n'a pas été le seul. Donc, et en même temps, une énigme, puisqu'elle n'a rien, presque rien publié de son vivant. Et elle est, avant de mourir, elle a demandé à sa sœur de détruire tout ce qu'elle avait écrit. Tout cela a été consigné dans des petits carnets, même parfois des bouts de papier. Heureusement, sa sœur n'a pas suivi son souhait.
Puisqu'elle avait demandé de les brûler, quoi. Et le faire disparaître.
Oui, oui. Et c'est vraiment l'exemple absolu du poète.
Oui,
de l'œuvre. Plus que Rimbaud,
Rimbaud.
Dans le sens où la force et la modernité, l'extrême originalité de son écriture, qui est parfois d'une obscurité très violente. Il y a des quatrains, elle rédigeait des poèmes très courts, qui sont absolument pas incompréhensibles, il y a encore des exégètes
Paul Celan, par exemple.
Paul Celan. Mais chez elle, il y avait aussi une capacité à capter la réalité, la plus simple, la plus humble, la plus qui me séduit. Et puis je ne suis pas le seul, c'est bon.
Oui. Qu'est-ce que, avant d'aborder toutes ces femmes poètes, je voudrais revenir sur la forme de ce livre court, virgule, Antigone court, point d'exclamation, parce que quand j'ai lu ce livre, j'ai été l'espèce de spectateur, effectivement, d'un théâtre. Et je voyais même, je vais te dire exactement comment j'ai lu ce livre. Je voyais Isabelle Huppert sur scène, en train de jouer ce rôle, de ce monologue qui part du début à la fin de ce livre, en me disant, mais je suis dans une pièce de théâtre, et je suis en même temps dans cette poésie que j'adore, qui est la poésie épique, une espèce de poème épique. Hein?
Lyrique.
Lyrique, oui. Lyrique, bon, oui, oui, en même temps épique, parce que, bon, c'est sous-jacent. Il y a à la fois le quotidien, sans que cette trivialité nuise en quoi que ce soit, même au contraire, ça renforce les images poétiques et ça nous renforce dans la réalité de la vie qui est sublimée justement par ce ton lyrique de tout le poème. C'est quelque chose, ce que j'ai lu là, que tu nous offres, cours Antigone, cours, j'avoue que effectivement, il a bien fait Yves Namur de mettre dans les inclassables, mais c'est quelque chose qui est d'un genre, oui, comme tu le disais, hybride, et en même temps, qui est, je dirais, follement poétique. Il y a une espèce de poème continué de la première page à la dernière, qui ne s'arrête pas. Un passage en appelle un autre, qui en appelle un autre, qui en appelle un autre. Voilà. Et par ces quatre voix, parce qu'on se demande qui parle. Voilà. Ouais. Et souvent, on ne sait plus, on est perdu. Des fois, j'étais perdu, moi, dans cette lecture, parce que je ne savais plus si c'était Emily Dickinson, Alejandra Pizarnik, si c'était Sylvia Plath, si c'était Ingeborg Bachmann, si c'était Virginia Woolf. Voilà, toutes ces voix qui sont, bien entendu, les voix sous-jacentes d'Antigone, qui se mêlent, qui s'entremêlent, qui se répondent aussi.
Oui.
Alors, je crois qu'il faut d'abord peut-être que tu dises pourquoi Antigone et que tu rappelles quand même le mythe d'Antigone,
l'histoire
d'Antigone.
Et effectivement, j'ai commencé à écrire ce texte-là en 2005 à la parution de Sait-on jamais à l'Arpenteur. J'ai commencé à écrire des textes qui sont les premiers textes et je ne savais pas du tout où j'allais. Je sentais, comment dire, quelque chose qui voulait se témoigner d'une... Bon, ça ces textes-là sont en quelque sorte la suite de... Parce que Sait-on jamais à l'Arpenteur et a été pour moi à la fois un grand aboutissement et en même temps une impasse, en quelque sorte. Et une impasse parce que je ne savais pas quoi faire autrement, comment. J'étais un peu acculé dans une nasse. Et tout à coup, j'ai eu ces quelques poèmes qui débutent ce livre sur Antigone. Et je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais en faire. Et puis, peu à peu, plein de petits détails se sont manifestés, et en particulier la lecture du livre de George Steiner, Les Antigones, qui est un livre somme sur la question. Et où il faut savoir que Antigone est pratiquement dans l'histoire du théâtre classique, antique, la seule à avoir eu une destinée aussi nombreuse, à savoir après la pièce de Sophocle jusqu'à aujourd'hui, on ne cesse de reprendre cette pièce, mais avec des traductions nouvelles, avec des adaptations nouvelles, même des textes comme le mien, complètement nouveaux, mais qui reprennent plus ou moins le schéma initial.
Oui, le mythe.
Donc il faut savoir qu'Antigone, donc, c'est la fille d'Œdipe et de Jocaste. Bon, tout le monde connaît plus ou moins le mythe d'Œdipe. Et donc Œdipe et Jocaste donc, ont eu quatre enfants, deux garçons, Polynice et Théocle, et deux filles, Ismène et Antigone. À la mort d'Œdipe, il y a une controverse. Et la, dans la décision politique de décider d'un roi de Thèbes, puisque Œdipe était le roi de la ville de Thèbes. Donc il est décidé que ce sont les deux fils qui, en alternance, vont diriger la ville. Mais donc, et en premier, c'est Théocle qui est désigné, et à la suite, ce sera Polyniste. Et il y a une dispute entre les frères, et Théocle ne veut, et tous les ans, donc, il devait se succéder. Et il y a une volonté des Théocles de ne pas céder le pouvoir. Donc Polyniste s'exile, va chercher une armée ailleurs et revient avec une armée étrangère, en quelque sorte, pour reconquérir la ville de Thèbes. Et tous les deux, donc, entrent en combat. La ville est assiégée et tous les deux finissent donc par s'entretuer tous les deux et meurent ensemble. Et donc, à la suite de leur décès, le Créon, qui est l'oncle de Antigone, et le frère donc il décide il prend le pouvoir et décide de bannir Polyniste, puisqu'il est venu avec une armée étrangère contre Thèbes, et son cadavre est jeté en dehors de la cité pour pourrir sans sépulture. Et il faut savoir que dans la mythologie grecque, donc lorsqu'il n'y a pas de sépulture, la personne donc est condamnée éternellement dans le royaume d'Hadès. Et donc c'est une condamnation terrible. Ce que Antigone, donc, sa sœur, n'accepte pas, et se révolte et va, en contrevenant au décret de Créon, va recouvrir le cadavre de Polyniste. Et par la suite, donc, Créon la condamne à mort, elle aussi. Il y a plusieurs, c'est ce que dit George Steiner dans son livre Les Antigones, il y a plusieurs, possibilités sur la et la mort d'Antigone. Soit elle aurait été lapidée, soit elle aurait été enfermée, c'est la thèse la plus reconnue, dans un caveau, dans la montagne, condamnée à mourir de faim. Voilà, en quelque sorte.
Enfermée vivante.
Donc, ce petit canevas, enfin, pas que l'histoire est beaucoup plus complexe encore que celle que je viens d'évoquer, de m'être replongé dans cette histoire d'Antigone, a fait tilt, comme on dit, dans l'histoire de certaines poétesses donc, que j'ai évoquées tout à l'heure. Emily Dickinson a vécu toute sa vie cloîtrée chez elle. D'où l'image d'Antigone enfermée dans un caveau. Alejandra Pizarnik aussi, qui était fortement paranoïaque, d'après ce que disent les témoins. Alejandra Pizarnik est morte d'un empoisonnement au psychotrope, si je ne me trompe.
Oui, c'est ça.
Sylvia Plath est décédée, s'est suicidée donc par le gaz. Et ensuite, la dernière, c'était Ingeborg Bachmann, qui fut une poétesse allemande très proche de Paul Celan, par exemple.
Oui, oui.
Et qui fut très proche du pouvoir à l'époque en Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, et fut même une actrice dans la renaissance de l'Allemagne et de la littérature allemande après la Deuxième Guerre mondiale. Et Ingeborg Bachmann, dont l'œuvre est très obscure, très difficile, très... Moi, j'avais adoré son roman Malina, qui avait été traduit en France par Philippe Jacoté, excusé du peu, et qu'il avait rencontré d'ailleurs quand elle s'est réfugiée après à Rome. Elle s'est exilée en quelque sorte à Rome, et elle est morte dans un hôtel... à Rome, dans l'hôtel où elle était, brûlée vive parce qu'elle fumait
au lit
beaucoup, et elle s'est endormie avec une cigarette, et ses draps ont pris feu et la chambre, etc., et elle est morte brûlée vive. Et toutes ces poétesses ont donc des points dans leur biographie qui font penser à Antigone, mais surtout dans leurs œuvres, sont toutes des révoltées, sont toutes des extrémistes de l'expérimentation et de l'écriture la plus aiguë et la plus audacieuse qui soit. Emily Dickinson, comme je le disais tout à l'heure, c'est un cas absolu. Même Franz Kafka est plus clair encore qu'Emily Dickinson. Et Dieu sait si Franz Kafka, dont je suis en train de lire la fameuse biographie d'un auteur allemand en plusieurs tomes, qui paraît, il y a eu un tome l'année dernière, et de 1000 pages à chaque fois, qui éclaire tout à fait l'œuvre de Kafka, qui explique beaucoup de choses. Kafka, qui fut quand même une énigme, qu'il est toujours pour moi, mais Emily Dickinson l'est encore plus. Et toutes ces poétesses ont une volonté, une intransigeance et une soif d'absolu sans équivalent.
Ça veut dire non.
Et qui, voilà, comme Alexandra Pesarni qui avait eu cette phrase.
Tu le cites.
Vous ne savez pas à quel point je suis contre. Voilà. Et il y a une phrase dans la pièce de Sophocle, d'Ismène, la sœur, qui dit à Antigone. Alors, il y a des controverses sur la traduction, mais c'est Georges Steiner qui en donne la meilleure. Tu es éprise de l'impossible.
Oui.
Voilà ce que dit Ismène à Antigone. Quand Antigone lui dévoile son projet d'aller pendant la nuit en dehors de Thèbes et de ensevelir le cadavre de son frère, et sachant que c'était pour par la suite être condamné à mort parce qu'elle a contrevenu au décret de Créon, Ismène lui dit ça, tu es éprise de l'impossible. Parce que cette soif absolue qu'il y a chez Antigone, il est dans ce respect qu'on ne peut pas, il faut respecter les morts, parce que c'est aussi important que de respecter les vivants. Et que cet absolu de l'acte que pose Antigone est absolument, continue encore aujourd'hui à questionner et à nous interroger sur plein de choses. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, vous avez au TNT, à l'heure actuelle, au programme, une pièce contemporaine, où on fait référence, qui s'appelle, il y a un jeu de mots, qui est Antigone. Et Georges Steiner a écrit son livre Les Antigones, justement, en faisant référence au nombre colossal, presque plus de 200 variantes d'œuvres qui ont été écrites par des auteurs différents au cours de l'histoire depuis l'Antiquité de Antigone.
Oui, on a tous dû étudier l'Antigone de Giraudoux, par exemple.
De Hanoï.
Ou d'Hanoï, oui.
Et ce que moi, ce, ce qui m'a donc fait qui m'a amené à attribuer ces textes qui commençaient à venir après la parution de Sait-on jamais sous ma plume, comme on dit, c'est justement cette cristallisation autour d'Antigone de destin et d'écrivain. De poétesse et Virginia Woolf aussi, dont j'ai oublié de parler, a eu aussi un destin tragique puisqu'elle s'est noyée, elle s'est suicidée et a été et aussi avait une soif d'absolu comme jamais dans la littérature. Il faut savoir que les romans de Virginia Woolf sont pour certains très difficiles. C'est ce que j'ai essayé de faire moi aussi un peu. C'est de, comme Joyce, parce que pour Woolf, un des modèles, c'était Joyce, c'est le fameux monologue intérieur qu'il y a, et que ce miracle qu'elle voulait atteindre à travers le monologue intérieur, c'était de restituer les différentes voix qu'il y a dans nos esprits, dans notre vie presque la plus quotidienne, de restituer, parce que nous ne sommes pas qu'une voix, nous ne sommes pas qu'une parole, nous sommes une infinité de paroles et de voix qui cohabitent dans notre esprit. Nous sommes sans arrêt en train de nous chamailler nous-mêmes, entre nous, dans notre tête, sur plein de sujets. Et c'est ce que, et en même temps, enfin, bon, Virginia Woolf, on a tellement parlé. Oui.
Si j'ai pu croire que c'était Antigone qui parlait, peu à peu, à sa voix sont venues se superposer, s'engréger, s'entrelacer, celles de quelques martyrs de la littérature, bon, que tu as nommé tout à l'heure, hein. Voilà. Et sans doute quelques autres que je n'ai pas reconnues. Voilà. Tu le mets en préambule, donc, de ce livre court, Antigone court. Dans ce livre, tu dis que tout poème est un théâtre.
Tout poème est une scène, un théâtre est une scène.
Voilà. Je crois qu'il est temps maintenant, Casimir Pratt, que l'on écoute un petit peu cette voix des Antigones qui parle tout au long de ce livre. Voilà. C'est l'on donner aux auditeurs. Donc,
je vais
le ton de ce long poème lyrique.
Parce qu'il y a de grandes sections qui s'articulent les unes aux autres, mais de grandes sections sur des sujets particuliers. Je voulais aussi juste signaler l'importance de ce qui paraît un peu anachronique, c'est celui de la course à pied. Bon, le titre lui-même est important, Cours Antigone, cours. Oui. Parce que donc, pour aller ensevelir le cadavre de son frère, il a fallu qu'elle court. Il y a cet aspect-là. Et ensuite, je dis qu'elle court aussi, que c'est une activité habituelle chez elle. Oui. Et que ça lui permet justement de... Et c'est une métaphore aussi de l'écriture et de la poésie. Oui. Il y a un petit clin d'œil, il y a un poème de Emily Dickinson qui dit « Cours, cours, mon âme, dans la maison », où il y a... Bon, c'est des petits clins d'œil comme ça qui sont disséminés dans le texte. Et la course à pied est une... Parce que, bon, je m'y suis longtemps adonné et c'est une vraie métaphore de la... Comment dire? Souvent, la courir, ça permet de s'apercevoir que notre corps, comme notre esprit, ont des limites qui peuvent... évoluer. Mmh. Enfin. Donc, je vais commencer. Mais tu ne dis rien. L'aiguille de l'horloge qui tourne, c'est toujours la même phrase. Combien de livres reprennent toujours les mêmes phrases, les mêmes inflexions? Je regarde l'horloge, je regarde les minutes qui tombent et moi-même, je tombe. Je n'ai pas le temps de rattraper mes chaussures. Je les vois qui vous volent derrière moi comme des mouettes, derrière moi en bas, comme des nuages qui rétrécissent à mesure. Mes propres paroles, comme des bouts de chiffon s'éparpillant dans le vide. Et pourtant, je tombe plus bas, moi aussi, plus bas que ce qui est indicible ou impardonnable. Je n'ai pas le temps de saisir ta main qui soudain flotte devant mes yeux, ton haleine qui voudrait me sauver. Mais qui peut sauver quiconque? Ce que j'écris ne m'appartient pas. Ce que j'écris équivaut à la bave d'escargot qui brille sur une feuille de laurier, s'apparente à la trace du doigt qui a enlevé un peu de poussière sur la rampe de l'escalier, ressemble au bruit intermittent des gouttes d'eau qui tombent dans du robinet dans la bassine. C'est pour cela que j'écris toujours sur des bouts de papier que je cache ensuite un peu partout dans la maison, dans des endroits incongrus, insoupçonnés, et puis je les oublie. Je les laisse s'abîmer dans les recoins de mon passé, du tien aussi. Lorsque tu en découvres un dans la poche d'une vieille veste ou sous le pied d'une lampe, je sais que tu prends un malin plaisir à la prendre par cœur pour tout de suite après le faire brûler lentement dans une soucoupe avec du papier d'Arménie pour dissimuler ta secrète jouissance ou la faire partager. Mais je reconnais malgré tout leur odeur, comme je reconnais ton sourire pincé. Je ne suis pas dupe. Je me cache aussi pour écrire, tu sais, comme font les enfants. Sur la buée blanche de mon haleine contre la vitre, j'écris sur les ombres qui projettent les branches ou les oiseaux, les étoiles ou le soleil. J'écris même sur l'ombre de la chaise, sur le gravier du jardin. Et puis je passe vite le râteau après. J'efface la buée. Il reste toujours un peu de poussière, une trace au bord des lettres que j'ai effacées. On ne les reconnaît pas, ou à peine, moi-même à la fin, elle m'indiffère. C'était un jeu. Run, run, que de bêtises j'ai pu écrire. Certaines nuits, à mon pupitre, je me tiens droite, je m'applique, j'essaie de ne pas trop appuyer, mais ma plume finit toujours par traverser la feuille de papier, malgré moi, va même jusqu'à entamer le bois du pupitre dessous. J'écris comme si je voulais enfoncer mes mots dans le crâne de la nuit. Je ne peux pas m'en empêcher, alors je ressens parfois ta présence derrière moi, produisant de légers bruits, comme si il se construisait autour de moi, en sourdine, une autre maison que celle-ci, lourde d'un temps étranger, pleine d'escaliers et de rideaux, comme ceux derrière lesquels mon frère se cachait pour me faire peur. Mais mon frère est mort, n'est-ce pas? Quelle heure est-il? 8 heures moins le quart. Souvent, dans un poème, au milieu d'un vers, entre deux mots, ou bien au creux du ciel d'une simple syllabe, peut survenir un vide, apparaître une absence, une ornière, une opacité, l'ombre d'un autre mot inconnu, d'un arbre insoupçonnable, transparent, qui penche, et que l'on n'entend pas parce qu'il penche. Son ombre, elle, soit bien sûr, ne s'incline pas. De même, sous les virgules, les parenthèses ou les points de suspension, il existe un vieux plancher de bois sur lequel on ne doit pas marcher, sous peine de déclencher des bruits, des sons qui perceraient nos tympans, réveillant partout dans la maison des mots, des fleurs dont le parfum nous brûlerait les yeux, tu sais. Un jour, je me suis risqué à descendre à l'intérieur. J'ai soulevé la trappe d'une voyelle au hasard, puis descendu l'escalier vermoulu, marche à marche, traits, graphes, enjambements, majuscules inachevées qui branlaient, apostrophes qui grinçaient, guillemets poussiéreux, c'était une chambre, comme autrefois. J'ai retrouvé sur le bureau les lunettes de mon père, avec les stylos recouverts par une fine toile d'araignée et des liasses de papier dont certaines à moitié consumées. Un des verres était fêlé. Je les ai posés sur mes yeux. Tout devint bleu ou noir ou vert. Tout était liquide, ou plutôt, tout avait revêtu l'âme d'un nuage quand il fait froid le soir et qu'un chien aboie. C'est alors que j'ai entendu dehors les pneus d'une automobile roulant sur le gravier du chemin. J'ai aperçu par la fenêtre ses phares allumés qui grossissaient. Je suis vite remonté. Mais avant de refermer la trappe, j'ai eu le temps de reconnaître en bas la voix de mon père et celle de ma mère qui haussaient le ton. Toujours les mêmes récriminations.
Alors, qui parle là ?
En grande partie, c'est Emily Dickinson. Voilà. Pour plein d'aspects.
Les lunettes de quand tu parles des lunettes du père.
Alors là, c'est les lunettes du père.
Est-ce qu'il y a aussi. Bon, on va voir que plus tard, tu parles aussi de toi.
Oui.
Par exemple, de l'enfance que tu as passée, quand tu allais passer tes vacances à Barcelone. Mm-hmm. Donc, tu t'inclus dans le récit aussi.
Hein? Oui.
Et donc, il y a tes souvenirs, également ces détails. Hein? C'est un aller-retour permanent entre des grandes métaphores d'idées, etc., et ces détails tangible, concret, qui donne justement cet extraordinaire élan poétique au texte,
oui.
Parce que ils ancrent le texte dans quelque chose où le lecteur va pouvoir se reconnaître et s'identifier.
Parce que au fin du fin, puisque ce texte, j'ai mis presque 20 ans à l'écrire, à le finir, à le peaufiner, je me suis vraiment rendu compte que, au-delà d'Antigone, au-delà de toutes les poétesses dont j'ai parlé, qui en sont des avatars, en quelque sorte, oui. C'est de moi que je parle.
Voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire, oui.
Et il y a récemment, je suis tombé sur une citation d'un poète que je connais très peu, qui est un poète américain qui s'appelle Wallace Stevens, qui a dit une chose qui m'a fait beaucoup réfléchir.
Un poète américain, oui, certes.
Qui a dit que la vie est un cliché,
oui.
La réalité est un cliché, et nous y échappons grâce à la métaphore. Mm-hmm. Et plus loin, la métaphore crée une nouvelle réalité à laquelle la réalité originelle apparaît comme irréelle. C'est-à-dire que la poésie, puisque la poésie est faite essentiellement métaphore, c'est-à-dire c'est un tour de passe-passe, mais qui est extrêmement, efficace. Pour moi, la poésie est le genre, est l'art suprême, puisque c'est le seul, parce que si on prend la musique, elle ne concerne que l'ouïe, la peinture, l'architecture, la culture ne concerne que la vue, la poésie touche à tous les sens, elle peut mêler dans son discours toutes les sensations que notre corps et en même temps notre esprit peut mettre en branle. Et ça permet une richesse d'évocation sans limite. La musique, c'est l'ouïe. Bon, mais c'est vrai, j'écoute beaucoup de musique. Mais il n'y a que la poésie qui puisse avoir un champ de cours de récréation comme celui qu'elle propose. Grâce à la métaphore qui peut jouer sur tous les registres en même temps. Et c'est ce que j'ai voulu essayer aussi. Il y a des poètes qui, très souvent, sont très plus visuels. Ou d'autres, mais je m'escrime toujours dans mon écriture à essayer de bâtir des métaphores où tous les sens puissent être en relation et puissent être parce que je pense que c'est par là qu'on peut rétablir la vraie vie. telle que nous la sentons, parce que quand nous mangeons ne serait-ce qu'une pomme, le goût, mais aussi l'odorat est en jeu. Et c'est grâce à l'odorat qu'on peut goûter. C'est, tous nos sens sont en relation. Et il n'y a que la poésie qui peut... traduit cette relation.
Oui. C'est le premier de tous les arts.
Voilà.
La poésie.
Depuis l'origine, la poésie, oui. Ce qui la distingue de d'ailleurs. Tous les autres, c'est l'utilisation des métaphores. Oui. C'est-à-dire la mise en relation de choses ou de sentiments complètement différents. Pour faire apparaître la réalité dans son entièreté. Bon, voilà.
Casimir, étant donné que l'heure passe plus vite qu'on ne le voudrait,
oui.
Je voudrais qu'on aille, tu as dit en définitive, dans cette Antigone, c'est moi aussi qui parle.
Oui.
Donc je voudrais qu'on aille à la page 74... où tu parles des réminiscences de l'enfance.
Ah, oui.
Et du quotidien, donc, de cette enfance.
Oui, je l'avais sélectionné. 8 minutes. Je l'avais sélectionné.
Voilà.
Tu veux juste...
Voilà, tu nous lises ce passage, page 74.
Voilà, parce qu'il y a... C'est aussi, bon, c'est à travers une petite fille, parce que cette Antigone, elle traverse aussi... c'est une enfant... Et c'est une personne adulte,
vieille
personne.
Elle traverse toutes les étapes de la vie.
Elle traverse et elle s'exprime avec, ces différents âges. Alors, c'est au milieu d'un long poème, depuis tant d'années. Et c'est ce que j'attendais là, sur le seuil de la maison, depuis toute petite, avec la poupée verte échouée à mes pieds. Je suis assise dans l'herbe, avec les murs du jardin autour de moi. Je suis assise parmi les nombreux « moi » qui viennent d'éclore en même temps sous mes yeux. Et ne sachant plus où je suis, je n'éprouve aucune appréhension. J'escalade prudemment le bruit des moteurs des voitures qui ronflent dans l'avenue toute proche. J'escalade les tas de feuilles toutes identiques qui ont fini leur tour du monde. Je franchis les murs, les silences, les étoiles empilées. J'emprunte l'escalier des écumes, j'enfile le manteau humide du soir. Je n'ai pas plus de 2 ou 3 ans. Je n'ai que des morceaux de syllabes. Tous les parfums viennent me lécher la joue. Toutes les nuits sont de mon âge. J'ai le même âge que le brouillard qui passe son bras sur les épaules des égarés. L'âge de la pluie grise qui dégouline avec la boue entre mes doigts. L'âge de l'or qui resplendit entre les yeux d'un chat. J'ai le temps. J'appartiens au temps que m'était asséché les gouttes d'eau qui ruisselaient tout au long de mon corps quand je sortais de la mer. Je les sentais toutes une à une se désolidariser de ma peau pour tomber ensuite à pic sur mes pieds, comme si elles m'avaient vraiment appartenu avant. Et simultanément, j'appartiens à l'instant précis où ma mère me frotte avec une serviette, au temps propre à l'inquiétude de ma mère qui craignait toujours que je prenne froid. Et puis, je suis dans la respiration saccadée de ma mère quand elle préparait la pâte pour un gâteau, dans le parfum qui émanait de la pâte, dans la poussière de farine qui voletait autour de son visage quand elle la retournait brusquement sur la table avant de l'étaler, comme si par la même occasion elle parvenait à écraser et à y enfouir son chagrin. Voilà pourquoi je prends plaisir à porter les mêmes vieux habits, à finir les mégots de la veille, à dénuder ma peur, essuyer les miroirs, à tout ranger et préparer dans la maison pour que la nuit puisse s'y installer à son aise. Ne te retourne pas. Voilà pourquoi tout le jour j'écris, je gratte la terre, j'entasse des cailloux, j'enterre des pétales, je plie des soupirs en quatre, je pile les os, des mots, des lettres pour mes poèmes. Tout cela inutilisable, bien sûr. J'ouvre en grand les fenêtres et vasistas des souvenirs pour les refermer aussitôt. J'oublie de refermer le frigo. Je sers du lait au chat. Je croque un vieux morceau de chocolat. Je mets une nappe toute neuve sur la grande table et un grand bouquet au milieu. Je mets le couvert comme si 50 personnes là allaient venir. Comme au temps où nos parents donnaient des fêtes qui duraient jusqu'au soir, jusqu'au matin, t'en souviens-tu? Comme au temps où il n'y avait pas de vent, où il n'y avait pas de couloir, comme au temps où les gens n'avaient pas peur de se pencher aux fenêtres et de rire. Voilà.
Alors, qui parle là?
Là, c'est différent. Au début, c'est une enfant, puis après, c'est la personne plus âgée qui se remémore plein de souvenirs. Et donc, en grande partie, moi aussi.
Oui,
bien sûr. On a encore du temps ou pas?
Oui. Il reste 4 minutes encore. Donc, on pourrait peut-être boire. Qu'est-ce que peut nous expliquer la malédiction des Ladacides?
Et c'est la malédiction d'Œdipe et de la famille. Œdipe et ses descendants, c'est la famille officiellement des Ladacides. C'est la malédiction dont a été victime Œdipe.
Voilà. Et cette malédiction, est-ce qu'elle se traduit également dans la tragédie d'Antigone?
Oui, bien sûr. Voilà. C'est Antigone clôt pratiquement cette malédiction. Malédiction qui elle-même est une métaphore, puisque nous sommes tous plus ou moins Œdipe, nous sommes tous plus ou moins... et nous, comme dit... voilà, Stevens, la réalité est c'est cette malédiction de la déception permanente que la réalité peut nous infliger. Et déception est un mot léger. Parfois, ça peut être le désespoir que peut nous provoquer la réalité. Et en même temps, cette malédiction, nous ne cessons de chercher à nous en échapper.
Est-ce que tu pourrais finir en nous lisant la page 92, simplement la page 92, je crois qu'on a juste le temps.
92.
Tu dis plus de destination à mes pas, plus besoin de prendre des photos de vacances, etc.
Voilà, oui, c'est quand elle dit qu'elle a sommeil, elle veut dormir.
Oui.
Et donc, une des échappatoires étant le sommeil, sombrer dans le sommeil. Et puis plus rien. Plus aucune trace de mes pas sur le sable derrière moi. Plus de destination à mes pas. Plus besoin de prendre des photos de vacances. Plus besoin d'albums dans lesquels ensuite les ranger. Plus de traces de mes manuscrits, de mes mots. Plus traces de mes lèvres sur le rebord des vers. Plus traces de mon haleine sur le verre des mots. Plus besoin de couper les gâteaux d'anniversaire. Plus de livres sur mon lit, plus de nuit entre les jours, plus aucun secours, plus d'ampoule grillée à remplacer, plus d'alphabet, plus de ciel entre les lettres, plus de lettres glissées sous la porte, plus de vent sifflant sous la porte, plus de vent nulle part, jamais, plus aucun chant, plus d'asphodèle, plus une seule larme de plus dans la mer, plus aucun reniflement de bateau contre le quai, plus aucun bateau. Pour justifier la mer.
Casimir Pratt pour Antigone, avec un frontispice.